ma présentation en ligne, si je la trouve. Voilà. Bon, alors d'abord, merci de m'accueillir pour cette fin de webinaire qui est assez extraordinaire, hein, j'avoue. On apprend beaucoup de choses et je ne veux pas prendre trop de temps, mais il se trouve que dans la chronique que je tiens pour Vélocité à chaque numéro, la dernière chronique portait justement sur ce sujet, c'est-à-dire la fin des quatre voies en ville. Est-ce que ça peut être envisageable? Que font concrètement les villes pour cela? Et en fait, j'imagine déjà la suite, c'est-à-dire je suis en train de rédiger la prochaine chronique qui portera sur la fin du stationnement sur voirie. Car on pourrait très bien imaginer aussi la fin du stationnement sur voirie, alors on en est très loin encore, mais sachez qu'il y a des villes qui explorent cela dans le monde, comme Copenhague notamment. Enfin, et puis, on peut aussi envisager, ce sera un troisième article dans quelques temps, la suppression du transit dans les zones 30, hein, les itinéraires malins qu'il s'agirait de supprimer. Là encore, il y a des expériences partout et des pays beaucoup plus avancés que la France. Bref, je vous invite sur le cas particulier des quatre voies en ville à regarder un peu ce qu'il en est. Alors, je vais surtout m'intéresser au cas de la France parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup à apprendre évidemment à l'étranger. Alors, comme à mon habitude, je vais vous proposer un recul historique, remettre en perspective le sujet. Il faut d'abord se demander, mais d'où viennent toutes ces quatre voies ou plus, hein, parfois les six voies, les huit voies, il y a des 10 voies, 11 voies à Lille. Il y avait une 11 voies à Lille qui a été supprimée il y a quelque temps. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, beaucoup d'artères ont été élargies sous la pression du tout automobile dans les années 50-60. À Paris, c'est pas moins de 50 km au moins de voirie dont la chaussée a été élargie selon mon propre décompte, qui est à mon avis pas encore complet. Une autre origine des voies rapides, des quatre voies, ce sont les voies rapides, les quatre voies ou plus. Ce sont les voies rapides. Donc, par exemple, à Lille, Roubaix, Tourcoing, on a créé une voirie dans les années 90 encore, en détruisant 700 logements et en déplaçant 2000 personnes. On a fait cela au début des années 90, quoi. Les villes nouvelles ont souvent des artères très larges. Alors, le cas de Cergy-Pontoise est un excellent exemple. Et puis, il y a aussi toutes sortes de boulevards un peu partout, comme par exemple, je vous donne là l'exemple du boulevard Léon-Blum à Besançon, qui est particulièrement pénalisant pour les cyclistes, qui est assez étroit, mais c'est une quatre voies qui est très encombrée et qui est un vrai problème à Besançon. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais voilà à peu près les quatre origines des quatre voies ou plus en ville. Alors, ce sont des voies très dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'elles incitent à la vitesse, d'abord, des voitures, surtout en hors heure de pointe, au changement de file, donc au dépassement dangereux, ce qui a énormément de conséquences, d'abord pour les piétons, il faut le dire, pas seulement pour les cyclistes. On a des phénomènes de masquage par des véhicules, de traversées allongées, de temps de verre piéton trop court, de détours car les traversées sont trop espacées, il n'y en a pas suffisamment. Il y a des passages dénivelés qu'on construit parfois mais qui sont pénalisants. Bref, tout cela rend ces voiries, transforme ces voiries, comme le disent les anglo-saxons, en barrières de trafic. C'est un terme qui n'est pas encore passé dans le langage en France, c'est dommage, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire à cause du trafic, on est obligé, en fait, d'accompagner les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées, qui ne peuvent plus traverser seules ces lieux. Et pour les cyclistes, évidemment, ce sont souvent des artères impraticables, quand il n'y a pas d'aménagement cyclable ou qui sont trop étroits. Et puis, ça introduit aussi des détours par des ruelles parallèles, Mais quand elles existent, ces ruelles, c'est de loin pas toujours le cas. D'où carrément, alors là, c'est carrément un renoncement à circuler à vélo à cause donc de ces quatre voies ou plus. Alors, en fait, on n'a pas attendu le confinement pour se demander comment les supprimer. Et je vais donc en quelques minutes là vous montrer qu'il existe déjà énormément d'exemples de transformation de deux fois deux voies en deux fois une voie en France, mais ce sont des exemples pas assez connus. Donc il y aurait un travail tout simple qui consisterait à finalement rendre compte de l'existence de ces cas et de les diffuser. Alors je vais vous donner un très petit aperçu. Hein, c'est un vaste sujet. Je dois dire que grâce à la liste de la FUB qui permet aux membres de la FUB d'échanger, je leur ai demandé de me donner des cas, d'exemples de quatre voies transformées en deux voies. J'ai pu récolter comme ça au moins une trentaine de cas en France, mais il y en a certainement beaucoup plus. Hein. Alors, je vais présenter rapidement quelques-uns de ces cas. Prenons le cas de Strasbourg. L'avenue des Vosges, qui était un itinéraire extrêmement emprunté, 21 000 voitures par jour, sur cet axe emblématique hein, de la ville de Strasbourg. Bon, bah, en 2019, on l'a passé à deux files seulement, avec des tournes à gauche quand même assez fréquentes, donc c'est plutôt trois files, plus des bandes cyclables à peu près correctes. Enfin, c'est en tout cas beaucoup plus facile à utiliser désormais pour les cyclistes qu'avant. Trois autres exemples. Prenons le cas de Nantes. Alors Nantes est une ville très avancée sur le sujet, puisque dès les années 90, Nantes a transformé plusieurs quatre voies en deux voies plus bande cyclable, plus, et c'est important ça, plus traversée sécurisée pour les piétons. Là, je vous donne juste un petit aperçu, mais vous pouvez, hein, si ça vous amuse, regarder cela avec évidemment Google Earth et explorer comment ils font. C'est très intéressant. Il y a d'ailleurs un guide des traversées piétonnes, par exemple, de ces quatre voies transformées en deux voies plus aménagement cyclable. Angers a aussi fait un travail non négligeable. Bon, je ne vais pas détailler, parce que c'est un peu du même genre. Ils ont fait des choses assez proches. Le cas de Paris est évidemment emblématique et également. Ça a été évoqué, mais le boulevard Voltaire, c'est un très bel exemple d'une quatre voies transformée en deux voies plus piste cyclable, avec l'intérêt hein, très, très fort du fait d'avoir mis les pistes cyclables entre trottoirs et stationnements. Hein, c'est un sujet important pour la sécurisation des cyclistes. Voilà. Alors c'est vrai que ça pose des problèmes pour les arrêts de bus, mais ça a été traité de façon à peu près satisfaisante. Et puis, il y a également en France, oui, bien sûr, des rues entières et qui ont été où le stationnement a été supprimé. Alors là encore, Paris est, comme vient de le dire Madame Gout, elle nous l'a bien expliqué. Il y a une réserve de capacité en fait de stationnement dans Paris, et donc c'est faisable. Paris a déjà supprimé un peu des centaines en fait de places de stationnement sur voirie pour faire de la place aux aménagements cyclables. Mais en province aussi, ce serait possible. Alors, le cas de Grenoble est intéressant, puisque sur les chronovélos là qui sont en cours d'installation, ici ou là, on supprime des pistes. Et donc, par exemple, il y a quand même à proximité de la gare pour la chronovélo numéro 1, 65 places qui ont été supprimées ou qui sont en cours de suppression, et un peu ailleurs aussi. Enfin, donc ça commence à se faire aussi en France, cette suppression de stationnement. Alors bon. Que faire, comment s'y prendre en fait pour passer de deux fois deux voies en deux fois une voie? Et là, je vous parle de la période d'avant, celle avant la crise sanitaire, comment on pouvait raisonner, puisque hein, l'article que j'ai écrit Il a été publié en février de cette année, avant la crise. C'est vraiment un hasard incroyable. Donc comment on pouvait faire avant ? Eh bien, l'astuce est assez simple. Il faut savoir que sur une 4 voies, c'est à peu près 1000 véhicules à l'heure de pointe, mais vraiment un grand maximum, quand il y a des carrefours à feu, mais encore plus si on peut maintenir des fils pour tourner à droite ou tourner à gauche aux principaux carrefours. Donc en réalité, une 4 voies peut écouler beaucoup de trafic, mais très souvent, elle n'écoule pas un trafic qui justifie le maintien de 4 voies, tout le linéaire de voirie. Donc en réalité, si on passe à 2 fils, et si vous avez donc le trafic que vous voyez à l'écran par fil, eh bien, c'est parfaitement possible, hein, comme l'a fait par exemple donc sur l'avenue des Vosges, Strasbourg récemment, même sur une avenue qui supporte un trafic de plus de 20 000 véhicules jour, il est tout à fait possible de passer à 2 fils en travaillant, c'est vrai, un peu les tournes à droite, les tournes à gauche. Donc c'est par exemple ce que vit une ville comme Mâcon, hein, vous voyez, avec la N6 qui traverse sur 8 km toute la ville, et en fait toute l'agglomération. Eh bien, cette 4 voies est déjà en partie à certains endroits à 2 fils, et elle pourrait être traitée évidemment sur l'ensemble du linéaire, crise sanitaire ou pas, quoi. Bon, alors, on peut même aller au-delà en tenant compte de ce qu'on appelle le phénomène d'évaporation du trafic. Et en fait, il y a une certaine souplesse, pas très grande, mais réelle, d'adaptation des automobilistes. Quand on réduit le volume de trafic, il y a une partie du trafic qui s'évapore. Bon, c'est une expression qui permet de dire qu'il n'y a pas seulement du report de trafic dans l'espace, dans le temps et du report modal, mais il y a aussi moins de déplacements. Les automobilistes se débrouillent pour se déplacer un peu moins et surtout pour faire des déplacements moins longs. Et en faisant cela, eh bien, on arrive à réduire un peu le trafic. Donc, par exemple, à Strasbourg, les 21 000 véhicules jour sur l'avenue des Vosges sont passés à 18 000, semble-t-il, à peu près, à 18 000, sans réel report de trafic sur les voies adjacentes. Vous voyez qu'il y a donc une souplesse qui est possible. Bon, et alors évidemment, je vais terminer là-dessus, si on utilise l'occasion de la crise sanitaire pour réduire le trafic à long terme, on retrouve ce que vous avez évoqué pendant toute cet après-midi, réaliser des aménagements cyclables provisoires et d'emblée imaginer la possibilité de les pérenniser. Voilà, je vais arrêter là-dessus. En résumé, on le fait déjà, on peut accélérer. Merci.
Merci beaucoup Frédéric pour cette conclusion et puis ce qui s'impose finalement à nous. Alors, moi, je suis heureux de constater que le webinaire est censé être terminé depuis maintenant 3/4 d'heure et on est encore 400. Hein, on est encore 400 à réfléchir collectivement à ce sujet-là. Et je propose qu'on se donne encore 10 minutes avec Flavien, hein, pour prendre d'éventuelles questions, interventions, avec toujours cette possibilité, hein, de demander la parole en levant la main, en faisant un clic droit sur votre profil. Ou en cliquant sur le bandeau jaune bleu de votre profil.
Alors, du coup, je prends dans l'ordre, hein, une main levée. C'est Florent de l'asso Choisy, je crois.
Choisy le vélo. Oui, vous m'entendez ?
Bonjour Florent.
Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour ce séminaire, super bien organisé. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente. C'est dire l'intérêt. Donc moi, j'apprécie beaucoup les présentations. Cependant, un petit bémol, j'ai l'impression que c'est pour des déjà convaincus. Et donc, j'ai posé la question tout à l'heure dans le chat à Pierre Cern. Je pense que ce qui va être primordial aujourd'hui, c'est que ces aménagements temporaires, on arrive aussi à les faire réaliser par des collectivités qui, avant, ne réalisaient pas forcément beaucoup d'aménagements. On le voit bien, et la conclusion de Frédéric Errand est là aussi pour le montrer, on le fait déjà, accélérons. Bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui en France pour ceux qui ne faisaient pas avant? Voilà, c'est ma question.
Eh bien, on va donner la parole à Pierre, du coup, qui lève la main.
Oui, merci. Je vais d'ailleurs, enfin après, il va vraiment falloir que je parte parce que je suis déjà très en retard. Mais la réponse, c'est que évidemment, s'il n'y a que les collectivités qui font déjà de l'aménagement cyclable et qui sont déjà convaincues qu'ils font, non seulement il va manquer des aménagements cyclables à certains endroits, mais en plus, on va avoir des discontinuités pas du tout adéquates. L'idée est donc que, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a déjà des remontées et que des initiatives et des manifestations d'intérêt de collectivités qu'on ne connaissait pas particulièrement pour leur attrait pour le vélo ou qui étaient même plutôt connues pour l'inverse. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose et il va falloir qu'on travaille beaucoup sur la question de l'incitation pour que on ait vraiment des collectivités en nombre qui s'y mettent et notamment dans les là où il y a des collectivités gestionnaires de voirie dont on aura besoin pour faire des continuités d'aménagement. Et aussi la question, la question, elle sera posée avec l'État, c'est-à-dire celle de la prescription, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un blocage d'une collectivité qui bloque en fait un aménagement et une continuité d'aménagement temporaire, la question va se poser de savoir si, vu l'urgence et l'intérêt général et primordial qu'on a de faire ces aménagements temporaire dans les temps pour absorber les flots de cyclistes qui ne manquera pas d'y avoir, dans ces cas-là, il n'y a pas une instance de gouvernance autre qui passe. Voilà. Je le dis de façon la plus modérée et euphémisée possible, mais la question, elle va se poser, et si on ne veut pas rater, il va bien falloir qu'on règle cette question-là quand même.
Merci. J'en profite pour donner la parole à Agnès, qui a également levé la main, et je pense que c'est pour également répondre à cette question.
Oui, pour répondre à cette question, nous, on voit bien, par exemple, dans la région Île-de-France, la région s'engage sur ce réseau cyclable express, y compris en temporaire. Les départements s'engagent. On a aussi les intercos. Bon, le GPSOA, par exemple, est en train de s'engager aussi dessus. Ça va toucher des villes. Certaines villes ont avancé sur le vélo, d'autres pas encore. Mais si on est sur des axes structurants continus, compte tenu de l'enjeu aujourd'hui de ce déplacement, de post-confinement, je pense que ça va engendrer un emballement des autres collectivités, des autres communes qui n'étaient pas forcément pour vélo. Et on va avoir une dynamique collective accompagné par les associations de vélo, et je pense qu'on est sur une dynamique au contraire qui va être beaucoup plus positive et qui va élargir la réflexion. Et là, je ne parle pas que des villes, que des zones urbaines, mais aussi le périurbain et le rural qui va arriver dedans aussi.
Merci beaucoup. Du coup, je vais donner la parole à Frédéric qui lève la main physiquement. Si j'arrive à trouver... Oui, je vais vous libérer le micro. Voilà.
Oui, merci. Il y a toujours des phénomènes d'émulation. Hein, c'est le mot-clé qui existe dans ces cas-là. Mais ça va dépendre de tout un ensemble de choses, de tout un ensemble d'acteurs. D'abord quand même des usagers, quoi. C'est-à-dire que si les usagers se mettent à effectivement au vélo comme on l'espère, comme Pierre l'a bien expliqué, très vite, les villes qui ne font rien seront sollicitées par leurs administrés qui diront « Et pourquoi on ne fait rien, nous ?» Hein, donc, il y aura évidemment des phénomènes d'émulation très importants qui vont jouer. Et les villes trop en retard, elles risquent de s'en mordre les doigts. Maintenant, moi, j'ai quand même un doute sur l'engouement effectif pour le vélo, parce que quand j'étudie ce qui se passe dans des moments exceptionnels, prenons par exemple, les attentats dans le métro à Bruxelles en 2016, on a eu une hausse de la pratique du vélo de 30%, quoi, à peu près, d'un coup, parce que les gens avaient peur de revenir dans le métro. Bon, mais on peut pas comme ça avoir un triplement, un quintuplement. Ça peut pas aller trop loin parce que l'apprentissage du vélo, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas seulement un savoir rouler, c'est un savoir se débrouiller dans le trafic. On fera des aménagements partout où c'est possible. Il y a toujours un moment où il faudra revenir dans le trafic général. Ce sera jamais très simple. Bref. C'est un système, le vélo, c'est un système, et apprendre ce système, à utiliser tout ce système, à avoir un vélo en bon état, le faire réparer aux besoins, etc., tout cet ensemble de choses, ça va être compliqué de le faire évoluer en même temps. Mais évidemment, on est là pour ça, pour y parvenir.
Merci. Du coup, on va prendre une autre question. Il y a Florence Delaunay qui lève la main depuis tout à l'heure. Bonjour Florence.
Micro. Sinon, voilà. Le micro va se mettre en place. C'est bon. Moi, j'avais déjà placé un élément dans le fil de discussion qui n'est pas vu, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde dans la mesure où on est tous en train de se demander comment on va faire pour aider les gens qui sortent des transports en commun pour les guider vers une pratique du vélo. Et il y a un élément qui n'a pas du tout été abordé dans la discussion et qui est le marquage des lignes avec un trait de peinture colorée, de manière à ce que quelqu'un qui se décide à prendre un vélo pour faire un trajet le trouve avec son marquage horizontal et la couleur quelque chose qui va le sauver en fait de la difficulté qu'il aura à s'orienter. Ces histoires de marquage avec un trait de couleur, évidemment ça coûte un petit peu de peinture, mais c'est quand même relativement peu coûteux. Et j'ai vu dans je ne sais plus quelle ville du nord de l'Europe un marquage avec une sorte d'alter en fait au sol. L'alter, quand elle va vers le centre, c'est le rond en avant qui est quand on va vers le centre-ville, on a le rond de l'alter vers l'avant. Et quand on va vers la périphérie de la ville, on a le rond de l'alter vers l'arrière. En fait, c'est un espèce de système pour arriver à savoir si on va vers le centre ou vers la périphérie. Donc tout ça, et je pense que c'est vraiment des petits outils qui peuvent aussi être mis dans la boîte à outils pour les villes dans lesquelles il y a des réseaux un petit peu compliqués et où avec les lignes de couleur, on peut vraiment aider les gens à s'orienter.
Très bien, ben merci pour cette question qui sera la dernière. Par contre, il y a Mehdi à Montreuil qui réagit, donc je vais lui permettre de répondre à cette question. Et je pense que ensuite ce sera le mot de la fin. Mais merci beaucoup.
Oui. D'abord, il faut avoir conscience. Moi, je parle pour une ville qui est une ville de banlieue, donc qui n'est pas un centre. Donc, lorsqu'on parle de centre pour une ville comme la nôtre, c'est difficile. Est-ce que c'est le centre de Paris? Est-ce que c'est le centre de Montreuil? Donc là, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile. J'ai quand même vu des marquages qui étaient intéressants, notamment dans la ville de Strasbourg, qui utilise la silhouette de la cathédrale, qui est connue par tous les Strasbourgeois, pour flécher en direction du centre de Strasbourg. Donc là, ça marche bien quand c'est une métropole, quand c'est une ville de province. Une ville de banlieue, ça a moins bien marché. Nous, on a travaillé, alors vous l'avez vu, sur la question des couleurs dans les carrefours, avec un bleu qui est très distinctif et très visible pour tous les usagers de l'espace public, mais aussi avec des marquages au sol qui donnent la direction, la durée qu'il faut pour atteindre cette direction et des flèches en fonction des carrefours. Et on a un retour très favorable, très positif de cette démarche, qui est très visible pour les cyclistes, qui savent du coup vers où aller quand ils roulent, sans trop chercher, parce que le panneau qui est en l'air, ils ne le voient pas forcément, ce qui est au sol, ils le voient. mais en plus, ça a l'intérêt de faire la pédagogie auprès des piétons qui passent à côté de ces marquages et qui réalisent soudain que aller de la Croix de Chavaux, pour l'exemple concret, vers le RER à Vincennes, c'est à peine 5 minutes à vélo, alors qu'à pied, ce serait une autre histoire, ou en bus aussi. Voilà, donc oui, les marquages, c'est très utile, mais c'est très compliqué aussi. Et puis, il faut avoir en tête la question de l'entretien. Ça s'use, ça s'érode. Alors, le faire sur de la résine, ça permet d'avoir une plus grande durée de vie du marquage, comme la résine dure plus longtemps. Mais il n'empêche que c'est complexe. Et puis derrière, la mise en œuvre de l'entretien est tout aussi compliquée, puisque c'est pas juste une flèche à repeindre. C'est souvent il faut un pochoir pour le marquage. Et ça, c'est tout le monde l'a pas forcément en stock dans les ateliers. Donc, on voit sur le long terme que ça reste compliqué pour nous.
Merci beaucoup Mehdi. On arrive à la fin de notre webinaire. On a déjà largement dépassé le temps. Je voudrais déjà d'abord remercier vraiment chaleureusement tous les intervenants qui ont été mobilisés au pied levé sur ce webinaire qui a été monté en 2 jours, hein, en rapport avec l'urgence du sujet. Ils ont répondu présents et présentes. Et je les remercie vraiment beaucoup. On a eu une occasion inédite hein, ici de travailler sur une recomposition très forte en profondeur de l'espace public vu les circonstances. Et on voit bien qu'il y a tout un tas d'acteurs associatifs et dans les collectivités qui sont sur le pied de guerre pour travailler sur ces sujets-là. Évidemment, on va pas s'arrêter là. Hein. C'est vrai qu'on espère pouvoir continuer à échanger, travailler sur des recommandations techniques, faire aussi des choses qui relèvent du bilan aussi de ce qui aura été fait dans quelques semaines. Donc, c'est vraiment très positif pour la suite. Et je voulais terminer aussi en vous annonçant qu'on est en train d'essayer de démarrer une démarche un petit peu parallèle sur la question de la marche. Ça a été évoqué dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui. On a mis en ligne hier soir un article qui s'intéresse aux opportunités de créer de l'espace pour la marche lié au confinement et à la période des confinements. Et on espère aussi pouvoir... voilà, qu'il y ait des choses qui puissent émerger de ces démarches-là. Voilà. Merci aux intervenants, merci évidemment aussi aux participants. Vous avez été donc 500 à vous inscrire et je pense beaucoup plus à vouloir participer, hein, ce qui est vraiment un signe que le sujet brûle, si on peut dire.